Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Direction Angoulême, ce midi, où se tient jusqu'en novembre 2024 une exposition sur les liens entre la bande dessinée et la cuisine sous le titre « Croquer, la BD met les pieds dans le plat ». Nous avons fait la visite en compagnie du chef Yves Candebord et de l'ancienne directrice associée du magazine Fooding, Marine Bidot, qui l'a conçue. Bonjour Marine Bidot.
Bonjour Caroline.
Bonjour Yves Candebord.
Bonjour.
On est au musée de la bande dessinée à Angoulême où vous présentez, Marine Bidot, une exposition dont vous êtes la commissaire. Croquer, la BD met les pieds dans le plat. Et vous, Yves Candebord, vous êtes un chef bien connu. On vous a d'ailleurs reçu aux Bonnes Choses et vous avez contribué d'une certaine façon à cette exposition puisque vous êtes, avec Jacques Ferrandez, un des auteurs de bande dessinée, vous êtes l'un des auteurs de cette longue et très belle et très riche exposition qui parle de l'alimentation dans la BD et des liens entre nourriture et bande dessinée, Marine Bidot.
Exactement, on a essayé de raconter une histoire, la rencontre entre la bande dessinée et la cuisine, l'alimentation.
On est dans la première salle, à l'entrée, on est accueilli, on l'entend par un extrait sonore, une chanson de Quand l'appétit va, tout va. C'est de l'autre côté, en fait, on a un extrait vidéo. Exactement. De Astérix et Obélix, évidemment, parce qu'on a des images dans la tête. Bien sûr, quand on pense nourriture, on a évidemment le sanglier d'Obélix, on a les épinards de Popeye, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre, d'ailleurs, Marine Bidot ?
On a Gaston et l'amoureux aux fraises. L'idée, c'était de montrer comment l'alimentation caractérise les personnages, comment, grâce à elle, on sait, on connaît la bonhomie d'Obélix, on reconnaît la loufoquerie de Gaston. Voilà, donc cette salle, on a essayé de montrer les liens entre des personnages extrêmement patrimoniaux et la cuisine et leur rapport à l'alimentation, la goinfrerie d'Avrel et ses pommes. Et on a des planches absolument sublimes de Franquin, des originales. On a eu beaucoup de chance que les héritiers de Franquin acceptent de nous prêter ces planches qui sont absolument magnifiques. On voit Marsupilami et un piranha qui va bientôt se faire gober par le Marsupilami. On voit aussi Obélix en train de dévorer sans attendre ses compagnons des sangliers, évidemment. Voilà, c'est une salle très réconfortante.
Yves Candebord, ça vous paraît naturel, ces liens entre bande dessinée et nourriture ?
Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de plus vivant qu'une bande dessinée. Et la cuisine, quand elle est vivante, quand elle n'est pas vivante, qu'elle est figée, on s'ennuie. La cuisine s'appuie aussi sur la bande dessinée pour rester en vie, pour rester dynamique, pour donner de la joie et de la bonne humeur.
Qu'est-ce qui vous a donné, vous, comme chef, envie de faire des bandes dessinées avec, en l'occurrence, Jacques Ferrandez ?
Ben, c'est une rencontre avec Jacques Ferrandez. Voilà, j'avais lu un peu tout ce qu'il faisait, je le lisais, dont Pays d'Orient, qui m'avait vraiment... presque au trip, c'est toute l'histoire de l'Algérie, j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai cherché à le rencontrer. Et quand j'ai rencontré Jacques, j'ai rencontré un épicurien, un gars qui était en vie, qui avait le sourire, qui aimait les vins nature comme moi, qui aimait la bonne table. Et de fil en aiguille, voilà, c'est l'idée est partie, parce qu'il me dit, tu es la vie, t'aimes la vie, ton restaurant, ta cuisine, ça bouge tout le temps, c'est jamais parfait, mais l'imperfection c'est ennuyeux, mieux vaut que ce soit toujours voilà, dans un courant d'air et dans des grands vents. Et l'idée est partie, Jacques m'a dit j'ai envie de t'accompagner, faire le tour de France, parce que je lui parlais souvent que j'allais voir mes vignerons, que j'allais voir mes cultivateurs, que j'allais voir mes maraîchers. Mais il m'a dit si tu veux, si ça ne dérange pas, je voudrais venir mettre dans ton sac, mettre dans tes pas et t'accompagner. Donc pendant 2 ans il m'a accompagné, on a fait pratiquement 32 week-ends, voilà, aller découvrir, aller rencontrer et aller honorer les gens avec qui je travaille, et surtout c'est ces gens-là qui me permettent d'exister, parce que la grande gastronomie française, elle est là, c'est vrai qu'on parle énormément que c'est les cuisiniers qui la mettent en valeur, c'est ce qui est vrai, mais on la met en valeur parce que tous les jours il y a des artisans et il y a des gens qui nous amènent voilà, le fruit de leur travail, donc c'était un moyen de leur rendre hommage. Donc on est parti, voilà, sur la route de France pour faire une bande dessinée à l'honneur des artisans français.
Et avant de faire ce tour de France auprès de vos producteurs avec Jacques Ferrandez, vous êtes et vous étiez un lecteur, un amateur de bande dessinée, qui plus est de bande dessinée qui parle de nourriture. C'est-à-dire que Popeye, Avrel, Obélix et Gaston Lagaffe, ça vous parle, Yves Candebord?
Oui, oui, tous les grands classiques, je dirais, de la bande dessinée, mais je les ai lus enfant. Après, je ne suis pas très pointu non plus.
C'est pas ça qui vous a donné envie d'être chef?
Non, c'est pas ça. Peut-être un petit peu, parce que c'était un peu. J'ai envie de dire que mon papa était une bande dessinée à lui tout seul permanent. C'est-à-dire que quand on faisait des repas de famille, là, c'était un peu gargantuesque, quoi. Il y avait tout, il y avait le vin qui coulait à flot sans aucune modération, il y avait les plats qui se succédaient les uns après les autres, et les sourires, le partage, l'amitié, la vie, les chants. Alors c'est vrai que la bande dessinée, mais c'est la continuité de tout ça. Mais quand on voit justement les grands classiques où il y a ces repas un peu, qui sont des grands repas à partager entre groupes, des grands banquets. Voilà, c'est des vieilles bandes dessinées pratiquement. Aujourd'hui, la bande dessinée aussi a évolué comme la gastronomie française a évolué. Elle traite des sujets très intéressants, des sujets très engagés, voilà, et des sujets qu'on défend en permanence. Je pense que la bande dessinée évolue autant que la gastronomie avance. Chacun amène un chemin parallèle et l'un a besoin de l'autre ou l'un avec l'autre s'entendent bien.
Marine Bidot, c'est une préoccupation que vous aviez de montrer dans cette exposition aussi que la gastronomie avance?
Ah oui, bien sûr. On a essayé de...
Je précise que vous êtes, je rappelle, que vous étiez la directrice associée du Fooding pendant plusieurs années, presque 20 ans, voilà.
Exactement. Oui, c'était hyper important pour moi qu'il y ait un vrai parcours avec une vraie progression, qu'il y ait des récits à chaque partie. Là, on vient d'entrer dans la deuxième partie qu'on a appelée le goût de l'époque, où en gros, on voulait montrer comment, grâce à nos pratiques culinaires, on pouvait parler de notre époque, de nos mœurs, et comment la presse notamment s'emparait de la gastronomie, de la cuisine, pour parler de politique, pour parler de faits de société. Donc là, on a beaucoup de couves de Charlie Hebdo avec nos politiques les plus anciens. On retrouve les unes du New Yorker. Alors là, on n'en a mis que 9, mais il y en a des tas depuis... des années et des années sur la gastronomie. Vous avez un espace de lecture tout au fond de cette première salle où on a vraiment voulu que les gens puissent regarder les albums feuilletés.
En mode bistrot, table de bistrot, livres posés sur les tables. C'est presque les chaises et les tables de chez Yves Candebord du temps bistronomie. Hein.
Je pense que c'est des tables réconfortantes, comme toute BD est réconfortante. On s'y sent bien, on est dans un espace un peu familier.
Et derrière vous, on retrouve Claire Bretéché. On avait à cœur de mettre en avant le maximum de femmes dans cette exposition, ce qui n'est pas facile. Et donc là, Claire Bretéché croque et se moque un peu à travers des scènes de repas, de ce que maintenant on appelle les bobos. Et on a voulu aussi que cette exposition soit la plus expérientielle possible. Et juste à côté de Claire Bretéché, on a une couverture de Spirou qui est sortie il y a quelques années, où quand on grattait le poulet qui est dessiné en couverture, une odeur en sortait. Mais pas une odeur de poulet rôti. Je vous laisse découvrir.
Vous voulez que je gratte?
Ah ben, je veux pas que vous grattiez, je veux que vous sentiez.
Je m'approche alors. Je confirme que ça n'est pas une odeur de poulet rôti.
C'est de la fraise.
Ah voilà,
Et ben bravo. Le poulet rôti à l'odeur de fraise. Marine Bidot, après ces deux premières salles, on entre dans un espace assez grand, très haut plafond. Les murs sont blancs mais recouverts de dessins, d'extraits agrandis, zoomés, de bandes dessinées diverses et variées. Vous avez beaucoup de planches mais qui sont encadrées. C'est très beau. On a un visuel assez vaste avec beaucoup de planches originales au mur.
Ouais. On voulait de la perspective. On voulait pouvoir avoir le regard qui n'est pas coupé. Après ces deux premières salles qui sont assez petites, on est encore dans la partie le goût de l'époque, donc on parle de l'époque toujours, et on a voulu parler notamment des vins nature et des vins naturels qu'on trouve beaucoup dans les caves, dans les restaurants, mais qui sont assez récents, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, et où l'illustration, et notamment l'illustration d'auteurs de bande dessinée, a joué un grand rôle, parce que à l'époque, les vignerons qui travaillaient en non conventionnel voulaient se démarquer des étiquettes classiques de vin, et donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment se démarquer des codes classiques du vin, et on va demander à nos amis dessinateurs Voilà, et vraiment, ça traduit les mœurs depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Donc cette salle, c'est ça. C'est aussi Mafalda, qui n'aime pas la soupe, et comment Kino parle de la dictature en Argentine à l'époque.
Et ces différentes époques, c'est aussi Dodin Bouffant. Dodin Bouffant, qui était d'abord un roman, puis une adaptation en BD, La vie et la passion d'Odin Bouffant. On voit d'ailleurs un peu tout, on ne voit pas le roman, mais on voit les planches de la bande dessinée et on voit un extrait du film.
Alors c'est le même extrait, vous voyez, on a pris le pot-au-feu, donc il y a l'extrait, il y a le texte de Marcel Rouff qui est surligné, vraiment le passage du pot-au-feu, sa retranscription en bande dessinée et ensuite le moment de la préparation dans le film.
On entend le fouet qui secouait dans la casserole. Vous faites le pot-au-feu, vous, Yves Candebordes ?
Oui, bien sûr, ça fait partie des grands...
À la Dodin Bouffant ?
Oui, à la Dodin Bouffant, oui, parce que, bon, après, je vois pas, le pot-au-feu qui a été fait à l'époque, voilà, il faut qu'il traverse aussi les temps et les générations, donc on y amène, je veux dire, les améliorations techniques et surtout l'évolution des saveurs, mais sinon, sur la base, c'est vraiment l'identique, un pot-au-feu, de toute façon, on ne peut pas trop le varier, à part de changer un peu les légumes et les viandes, sinon ça reste une des fondations, un des plats importants de l'histoire de la France.
On ne peut pas trop le varier, on ne peut pas trop le rater non plus, hein.
Oui, puis surtout, il faut le respecter, quoi. Il faut le respecter, voilà, les revisiter, je pense qu'on a eu une tendance à une époque de revisiter. Peut-être qu'il faut passer par là, pour justement l'ancrer d'autant plus. Et c'est vrai que c'est des plats qui sont des plats ménagers, mais c'est des grands plats. Quand je dis ménager, c'est surtout pas péjoratif, c'est des très grands plats et qui sont faciles à faire. Et c'est vrai que les bouillies, on les a un peu oubliés. Et en ce moment, on en a bien besoin parce qu'ils sont fort agréables vu les températures que nous avons.
Marine Bidot, on est passé de portraits en bande dessinée des personnages, enfin c'est des personnages qui parlent de nourriture, à des auteurs qui parlent de nourriture. Donc là, dans cette salle, il y a énormément d'auteurs représentés. On en a cité quelques-uns, mais il y a aussi Brecht Evans, il y a aussi Binet, il y a aussi Marthe Poisat, toujours des femmes, Étienne Lecroire, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est une exposition qui fait la part belle à des auteurs qui parlent de nourriture et qui représentent un certain nombre de leurs œuvres. La troisième partie est une partie plus intime. On quitte le goût de l'époque, mais on entre dans l'intimité comme si vous aviez voulu montrer ce que la cuisine convoque, ce qu'elle nous fait, l'autobiographie, les souvenirs d'enfance, les histoires personnelles, c'est tout ça.
C'est tout ça, je suis ravie, vous en parlez très très bien. On a appelé cette troisième partie « Je mange donc je suis » et en effet, ça convoque l'intime. C'est comment la cuisine nous permet de supporter le pire, comme la maladie avec Aurélia Horita qui nous raconte à travers la vie gourmande son combat contre le cancer, avec des planches originales magnifiques, ses carnets de croquis. On a aussi mis en place un caisson interdit aux moins de 18 ans, où là on est vraiment dans la partie très 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 intime de couple et de pratique érotique, je dirais. On découvre aussi dans Mortel Vinas encore une autrice formidable, et aussi avec Julia Vert le rapport à l'alcoolisme, où Julia Vert nous raconte son combat contre l'alcoolisme avec beaucoup de fraîcheur et c'est très très touchant. Voilà, cette partie-là, c'est exactement ça. Elle convoque à la fois l'histoire personnelle mais aussi la grande histoire. Voilà, là on a ce mur d'Emily Gleason où elle a travaillé sur la notion d'addiction au sucre, complètement gérée et organisée par les grands lobbies industriels. C'est des témoignages extrêmement forts qui racontent ce combat contre cette forme d'addiction qui n'est pas reconnue mais qui est vraiment réelle.
Yves Candebordes, vous avez découvert des choses, là on est à peu près à la moitié de l'exposition. En faisant le tour avant qu'on y soit ensemble, est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas qui vous ont ébloui, qui vous ont frappé, qui vous ont donné envie, avant de manger, de lire ?
Moi, je pense que l'exposition, la première des qualités que je trouve qu'elle a, c'est qu'elle donne envie de manger. Elle est gourmande et quand on fait le tour, on a faim. Donc, je pense que c'est bien. Non, moi je suis très touché par Émilie, parce que c'est, voilà, honnêtement, je connaissais pas. Mais c'est un combat qu'on mène contre l'industrie agroalimentaire, contre le gras, le sucre et le sel en permanence. Et je pense qu'ils ont fait un travail assez exceptionnel, qui est très 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 engagé. Et c'est bien de le mettre en BD, parce que je me dis toujours peut-être que la nouvelle génération sera peut-être plus sensibilisée à le voir en BD que quand nous on l'écrit, même sur les journaux ou même peut-être souvent à la télévision, que la BD va rester, la BD va bien marquer ce combat et qu'il est hyper important. Et quelque part, en tant que cuisinier, ça me conforte dans mes convictions. Parce qu'aujourd'hui, même des gens qui sont hors de notre métier ont le même combat que nous. Et c'est gratifiant.
Vous écoutez France Culture, vous écoutez les bonnes choses qui sont aujourd'hui en reportage, en immersion, dans l'exposition Croquer, la BD met les pieds dans le plat, c'est à Angoulême, c'est jusqu'au 10 novembre 2024, nous sommes au musée de la bande dessinée avec la commissaire, co-commissaire de l'exposition Marine Bidot et le chef Yves Candebord. On continue cette visite, on en est à peu près à la moitié. Yves Candebord nous disait à l'instant qu'il y avait quand même une démarche politique aussi dans la façon dont un certain nombre d'auteurs et d'autrices parlent de nourriture dans leur bande dessinée ou utilisent la bande dessinée parce que c'est très grand public, parce qu'on touche un public plus large, utilisent la bande dessinée pour faire passer un certain nombre de messages, avec l'exemple d'Émilie Glisson. C'est une démarche qui était aussi la vôtre, Marine Bidot, oui. Où vous avez constaté, en montant l'exposition, que beaucoup d'auteurs et d'autrices étaient sensibles à ça.
Oui, en fait, on a constaté ça, mais aussi ça nous intéressait d'aller voir des gens qui traitaient la cuisine et l'alimentation de manière vraiment différente, et donc politique, très intime, et on s'est rendu compte, en effet, que la BD permet tout. Et ce qui est très fort dans le travail d'Émilie Glisson, c'est que sous ses airs de dessin pop et très joyeux, elle parle de choses très dures. Et c'est ça aussi qui nous intéressait, c'était d'avoir des traits très différents. Là, on vient de passer devant Le Gourmet solitaire. C'est comme ça que la BD m'a le plus touchée, la BD autour de la gastronomie. C'est avec Taniguchi et Le Gourmet solitaire. Là, on a la chance d'avoir des originaux. Ça donne vraiment faim, le travail des vapeurs, du chaud. C'est absolument incroyable et c'est très rare. J'ai passé des heures, quand on a reçu les planches, j'ai passé des heures à regarder en disant « c'est pas possible, c'est pas des originaux ». Et si.
Vous connaissez ça, Yves Candebord, le travail de Jirō Taniguchi ?
Oui, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert, que j'ai rencontré Tokyo. En plus voilà, de l'engagement et de cette BD, ça m'a permis de visiter Tokyo, le Tokyo gourmand. Et c'est aussi une des forces de la BD, quoi. C'est de traiter des sujets. Ça peut nous amener à de la réflexion, ça nous peut nous amener à de la découverte.
À voyager.
C'est toujours intéressant. Et puis c'est toujours fait quand même avec un bon ton. Il y a toujours un ton, un humour, une douceur, une gentillesse.
La douceur. Chez Taniguchi, ouais. C'est quand même... C'est on se régale avec douceur. Ouais.
Et c'est vraiment la BD, quand vous la lisez, ce gourmet solitaire, vous n'avez qu'une envie, mais c'est prendre le premier vol et aller à Tokyo.
Et le manga est très présent d'ailleurs dans cette exposition Marine Bidot. La cuisine est un personnage à part entière, hein. De toute façon il faut bien le dire. Et le manga est une des manières d'expression, une des façons d'exprimer la cuisine comme personnage à part entière.
Ouais, au Japon c'est très très présent et c'est présent pour tous les publics, hein, les très jeunes publics et les moins jeunes. On connaît tous Les Gouttes de Dieu qui a été adapté en série récemment. Oui, il y a une partie manga dans l'avant-dernière salle. Mais je voulais aussi vous parler, parce qu'on avait envie d'explorer le toucher. Et on est tombé sur cette bande dessinée qui nous a fait beaucoup rire, qui s'appelle El Chipo. Et El Chipo, c'est l'histoire d'une saucisse qui a la grande qualité de pouvoir remplacer n'importe quelle personne au pied levé, et notamment des stars de cinéma, sans que personne ne s'en aperçoive. Et donc, cette saucisse...
Yves Candebord est en train de froncer les sourcils. Alors là, manifestement, vous ne connaissez pas Yves.
Non, je connaissais pas. Je suis venu la voir pour dire la vérité tout à l'heure et j'ai trouvé ça assez extraordinaire.
Alors voilà. Marine,
de c'est mettre très... en vie une saucisse, c'est pas beau ça?
Ouais, c'est très drôle. Et les dessins, on a des originaux à gauche des clapets, puisqu'on a mis un système de clapets qui permet d'interroger. Donc là, à votre avis, Caroline, c'est qui? C'est facile. Hein.
C'est James Bond.
Voilà.
Le baiser de l'hôtel de ville, de Willy Ronis. Et donc à chaque fois un des personnages est sous forme de saucisse, c'est ça l'idée ?
Exactement, et en fait c'est très drôle, mais à côté de ça on a les originaux et le dessin est très très beau. Alors, son nom d'auteur c'est Nico Witko qui a fait ça, ça nous a fait beaucoup rire.
Et on entre avec vous, Marine Bidot et Yves Candebord, dans la cinquième partie, dans la cinquième salle, je ne sais pas si on peut parler de salle, mais en tous les cas dans la cinquième partie de cette exposition. au cours de laquelle la BD se fait reportage aussi. Reportage dans les cuisines, les fermes, les vignobles pour découvrir des talents, des savoir-faire. Alors il y a même une vidéo avec une autrice qui est en immersion au Clarence, qui va dessiner, vous allez nous en parler Marine Bidot, les chefs en train de cuisiner. Et puis je vous laisse dire la suite.
Ça nous tenait beaucoup à cœur d'avoir une commande. Et donc on a demandé à Chloé Cruchaudet, qui n'avait jamais été dans un restaurant 2 étoiles, qui n'avait pas particulièrement de sensibilité ou en tout cas de rapport à la cuisine, on lui a demandé de passer une journée donc avec Christophe Pellet, le chef du Clarence, et voilà, de nous raconter cette expérience de dessin et de croquer pendant toute une journée. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si touchant. J'ai trouvé que les dessins étaient d'une sensibilité mais hallucinante, c'était d'une beauté renversante. Elle a réussi à l'aquarelle à retranscrire son émotion, mais je pense qu'il n'y a que le dessin qui permet ça, vraiment c'est une prouesse. Il y a quelque chose d'assez lacrymal, je trouve, et elle dit j'ai les larmes au bord des yeux, parce que je pense qu'elle a vu tout l'engagement qui avait été pris, ce que disait Yves dans la cuisine, elle a vu à quel point le travail que c'était, mais elle a dessiné les chefs, elle a dessiné son repas avec une sensibilité folle, et elle, on la voit, il y a un petit dessin ravissant où on voit son reflet dans un miroir où elle dit devant tant de beauté, je me sens toute petite. C'est pour ça que moi je suis une passionnée d'illustration et de bande dessinée, c'est parce que je pense qu'il n'y a que ça qui permet autant d'émotions.
C'est un hommage au dessin, c'est un hommage à la bande dessinée, c'est un hommage aussi à la cuisine. Est-ce que quand vous avez fait vos bandes dessinées avec Jacques Ferrandez, Yves Gandebord, il a procédé un peu de la même façon, c'est-à-dire à vous suivre, parlant avec les producteurs, les productrices que vous rencontriez, mais à vous suivre aussi au quotidien dans votre travail de chef?
Oui, il a procédé de la même façon, c'est surtout qu'il a passé du temps en cuisine à regarder. C'est notre métier, bon, on est des passionnés, et la passion... Voilà, assez bien, et c'est travers aussi, mais on est tellement amoureux de ce qu'on fait, on a une telle concentration, on est tellement omnibulé par le geste parfait, par l'assaisonnement parfait, qu'on y met beaucoup de nous, que les équipes aussi voilà, nous suivent. Donc il y a un état d'esprit, une ambiance très particulière, et je pense qu'il faut vraiment passer du temps dans une cuisine enfermée, vraiment voilà, dans ce petit bocal, pour arriver à comprendre ce qu'on donne et ce qu'on ressent nous et dans quel état psychologique et physique on est capable de se mettre pour la cuisson parfaite, pour le plat parfait. Et c'est vrai que ce qui a été retranscrit de la cuisine de Christophe me touche particulièrement parce que j'ai rarement vu voilà, quelqu'un qui l'a vécu de cette façon et surtout de la façon qu'elle a de l'avoir écrit et de l'avoir dessiné, quoi.
Marine Bidot, derrière nous, il y a quelque chose que vous aimeriez montrer. Évidemment, c'est Posy Simons qui a d'ailleurs dessiné la couverture, l'affiche de l'exposition.
Et voilà, et c'est là le dessin original. On avait très envie que Posy Simons fasse l'affiche. On n'y croyait pas, puis elle a dit oui très gentiment. Et on était vraiment ravis. Donc cette affiche, ça représente une femme en cuisine et qui soulève une marmite et des bulles en ressortent. On voit le croquis de préparation.
Et Posy Simons a-t-elle un lien particulier avec la nourriture en dehors d'avoir fait l'affiche de votre exposition, Marine Bidot?
Alors elle a un petit lien. Cassandra Drake, qui est un de ses personnages récurrents, a un rapport, elle, à la cuisine assez charnel, gourmand. Mais on n'avait pas forcément envie d'être tout à fait attendu. On aurait pu demander à des auteurs qui ont un lien beaucoup plus direct à la cuisine de faire l'affiche, mais ça aurait été assez évident. Là, on avait aussi envie... Bon, déjà, on avait très envie que ça soit une femme, et on avait envie que ce soit quelqu'un qui nous propose vraiment sa vision des choses, mais qui n'aurait pas déjà été faite.
Alors, on arrive dans le dernier temps de cette exposition. Un dernier temps un peu particulier, mais qui a trait à ce dont on a parlé au cours de cette visite, Marine Bidot, c'est-à-dire aussi l'évolution de la gastronomie, l'évolution de notre façon de manger. Vous avez conçu un livre qui accompagne cette exposition, et ce livre a pour sujet la cuisine de demain. vaste sujet, hein. Et pour ce faire, vous avez pensé des binômes, chef et auteur, autrice de bande dessinée. Vous nous racontez ?
En fait, quand mon co-commissaire Mathieu Charrier me proposait des auteurs et des autrices, charge à moi de trouver le chef qui, ou la chef qui allait correspondre et avec qui ça allait matcher, parce qu'il fallait créer un sujet, un objet graphique intéressant. On a eu 14 binômes géniaux avec tous, donc on leur a dit qu'est-ce que la cuisine du futur. Donc certains sont partis complètement farfelus, complètement démentes, et puis d'autres duos ont fait des choses beaucoup plus classiques avec une réflexion beaucoup plus réaliste.
On a une chef avec nous qui nous a rejoint au cours de cette visite, c'est Céline Pham. Bonjour Céline Pham.
Bonjour Caroline, bonjour Marine.
Vous avez participé justement à ce livre qui est aussi dans l'exposition sous la forme d'extraits de dessins entre vous et un auteur, une autrice. Vous allez nous dire comment vous avez travaillé, puisque vous êtes chef cuisinière et vous êtes en binôme avec...
Avec Donatien Marie.
Racontez-nous alors.
Alors Donatien est venu au restaurant à Arles, chez Inari. Je vais faire un menu en 5 temps. Et par la suite, on s'est retrouvés à l'étage du restaurant, qui est sous les voûtes. Juste éclairé à la lueur d'une bougie, on a eu cette idée un peu décalée, on va dire, de recette cannibale.
Donc, c'est la recette du futur pour vous, les cannibales?
Non, pour le coup, on est allé très très loin. Enfin, on a vraiment glissé.
On leur a dit, n'hésitez pas, amusez-vous. Et ouais, l'anthropophagie, c'était de manière très très rigolote, hein, parce que les recettes qui sont là, ce sont la grand-mère au pot, l'enfant de lait braisé, la cervelle d'ingénieur.
On s'est dit que c'était une denrée rare, la cervelle d'ingénieur, et que on allait, on l'a fait décaler, mais on s'est vraiment posé en essayant de trouver les mots, les recettes, les ingrédients, etc. Et surtout, je suis allée dans son studio à Paris. Et là, j'ai découvert tous ces outils, enfin, que je connaissais pas du tout, enfin, cette façon qu'il a de graver, et puis des tampons, de graver ses tampons, et de sculpter ses tampons, de créer ses encres, de choisir ses couleurs, etc. Et là, j'étais vraiment fascinée par la minutie, l'orfèvrerie que c'était. Et j'ai eu là, pour le coup, un coup de foudre pour son travail.
On disait quand même tout à l'heure que la grande force des auteurs et des autrices de bande dessinée qui travaillent sur la nourriture, c'est de passer du temps en cuisine à regarder faire, quand il s'agit en tous les cas de parler de cuisine en train d'être faite, à passer du temps à regarder faire les chefs. La cervelle d'ingénieur, je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment passé du temps avec vous, Céline Pham, d'autant que vous êtes plus connue pour votre cuisine, disons végétale. Donc justement, c'était pour aller encore plus loin ou à l'opposé de ce que vous faites habituellement. Donc ça veut dire que vous proposez une recette que vous ne ferez jamais, que vous n'avez jamais faite.
Non, mais qui est peut-être cachée, enfouie quelque part, je ne sais pas.
Ce qui est vachement intéressant dans ce que dit Céline, c'est l'apport par rapport à ce qu'elle a vécu dans l'atelier du dessinateur, ce que ça lui ouvre comme porte à elle. Ouais. Mais on revient sur l'histoire un peu de notre gastronomie. Je le dis souvent, Antonin Carême, il le disait lui-même. Je pense qu'il a réussi à agrandir son registre personnel en allant s'appuyer sur les arts différents. Il est allé voir les architectes, allé voir les peintres, allé voir les sculpteurs. Et je crois que ce qu'a vécu Céline est hyper important pour l'ouverture, pour l'avancée de nos métiers. Ça nous permet d'ouvrir des portes différentes, voilà, d'avoir des regards différents, de rencontrer des gens qui ont la même passion que nous, la même précision et le même investissement. Et surtout, quand c'est des dessinateurs, je crois qu'ils peuvent nous apporter beaucoup de choses sur le côté artistique.
Voilà, de l'histoire, de l'art, de la société, de la politique et de la gourmandise. C'est la sortie, hein, derrière nous, Marine Bidot. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marine Bidot, merci Yves Candebord et merci Céline Pham. Bon appétit à toutes et à tous.
Croquer, la BD met les pieds dans le plat. C'est une exposition à voir au musée de la bande dessinée à Angoulême jusqu'au 10 novembre 2024. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Séam Boutata à la documentation, Louise André à la réalisation et aujourd'hui Sébastien Royer à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.